Il m'a donc été demandé de deux côtés différents quelle analyse faire sur le dernier travail de Bernard Tissier de Malraix qui est paru dans la revue du Sel de la Terre numéro 85 de l'été 2013 sous le titre « Y a-t-il une église conciliaire ?» On a l'impression à lire ça que comme l'abbé Glaise a fait un travail semblable, qu'il avait été cité plusieurs fois dans la même revue du Sel de la Terre, que son explication n'a pas plu ou a été jugée déficiente par les directeurs de la revue, les messieurs Davrier. Ils ont peut-être demandé à Tissier de Malraix de refaire quelque chose de plus ferme sur le même sujet. Or, malheureusement, on peut dire que s'il y a peut-être une plus grande fermeté dans certaines affirmations, la base revient à peu près exactement au même, car elle conserve la position entre deux chaises de la fraternité Saint-Pédis depuis bien des années. C'est-à-dire qu'ils essayent de concilier, comme le dit Saint-Hilaire, l'inconciliable. Ils disent les fruits sont pourris, c'est des fruits vénéneux, etc. Mais ça semble venir de l'arbre qu'est l'Église, donc du pommier. Donc c'est une pomme, bien que ça soit un fruit vénéneux, bien qu'en soi ça ne ressemble pas à une pomme. Donc ça vient de l'Église, donc c'est l'Église qui a produit ce fruit vénéneux, etc. Une manière un petit peu de comprendre la démarche, c'est de citer un passage de la réponse du même Bernard Tissier de Malraix à une question que lui avait posée l'abbé Schoenbrout et auquel il a répondu le 28 février 2009, et dans laquelle il dit « Cher monsieur le curé, j'admets très bien qu'un prêtre, que des fidèles aient des doutes sur la validité d'un pape, c'est comme ça qu'il l'appelle, tel que Jean-Paul II ou Benoît XVI. Monseigneur Lefebvre n'entend t'il pas eu parfois ?» Bon, on voit que dans certains points de l'étude qu'il fait là encore, il va citer Mgr Lefebvre aussi. Mais comme Mgr Lefebvre, sur ces questions-là, a dit une chose et son contraire, on peut remarquer que ceux qu'on appelle maintenant les accordistes ou les anti-accords peuvent tous deux se choisir les citations qu'ils veulent parce qu'il y en a qui vont dans tous les sens. Et même au niveau des actes, c'est pareil. Mgr Lefebvre dit « c'est impossible d'accepter ce concile, ça serait mettre un grain d'encens, il vaut mieux mourir ». Et quelques jours après avoir écrit ça, il accepte dans le sens de la tradition parce qu'on lui a promis qu'il pourrait peut-être faire un évêque avec autorisation officielle des intrus. Donc, il suit Mgr Lefebvre dans un sens et dans un autre. Et en fait, il s'en tient à sa position ambiguë qui essaye de concilier les inconciliables. Alors, du coup, il dit, bon, c'est bien possible que un jour, c'est ce que disait Mgr Lefebvre, les explications qu'on a dénommées, entre guillemets, c'est des vacantistes, soient entérinées par l'Église et que ça soit elle qui recoupe la réalité. Mais bon, il vaut mieux laisser ça pour le futur. Pour l'instant, on s'en tient à faire ce que l'Église a toujours fait et à enseigner ce qu'elle a toujours enseigné. On va voir tout de suite que c'est pas du tout le cas. Et donc, il en arrive à dire, Tissier de Malraix, « Bon, je ne veux pas faire de ce doute un cheval de bataille ou une justification de mon action. Mon action se fonde, dit-il, tout entière sur le devoir du combat de la foi selon saint Paul. » Mais le combat de la foi, c'est la vérité révélée, la vérité définie par la Sainte Église, et ce genre de vérité, on n'a pas à les mettre en question. On n'a pas à se poser des questions si c'est possible du contraire. Ou alors, si on le fait, c'est quant aux apparences, pour mieux montrer que, eh bien, effectivement, ce n'est qu'une apparence de contradiction. Alors, il continue. « Quant à celui qui siège à Rome, puisqu'il y a doute, mais il y a doute pour ceux qui n'ont pas étudié vraiment la question, ou si on prend les choses au tout début de la résistance, là il y avait effectivement doute, parce qu'ils n'avaient encore pas manifesté toutes les hérésies, toutes les erreurs, qu'ils restaient ambigus et autres, mais depuis on a tout ce qu'il faut pour voir clairement les choses, et il va nous l'affirmer, puisque Mgr Lefebvre le premier a dit « c'est une église schismatique, hérétique, on ne peut pas adhérer au concile sans tomber dans l'hérésie et en quittant l'Église ?» Alors comment peuvent-ils dire qu'ils adhèrent au concile et à l'hérésie, mais ils restent quand même dans l'Église et ils sont encore catholiques ? Ça, c'est les contradictions. Alors, soi-disant, Mon action se fonde tout entière sur le devoir du combat de la foi. Bon, jusque-là, très bien. Quant à celui qui siège à Rome, puisqu'il y a doute, mais c'est vous qui dites qu'il y a doute, avant d'avoir étudié la question, puisque la présomption est en faveur du possidens. Bon, c'est-à-dire qu'il y a des apparences d'élection légale, donc on s'en tient à ça. A priori, au tout début, d'accord, mais une fois que ceux qui, soi-disant, ont l'autorité pontificale, ont prétendu décréter dans l'Esprit Saint un concile, où ils disent eux-mêmes qu'il y a des hérésies et autres, comme on sait que, à moins de tenir la doctrine de Luther, que le pape peut se tromper dans un concile œcuménique qu'il approuve dans l'Esprit Saint, et en prétendant que la doctrine qu'il enseigne est celle de l'Évangile et celle que le Christ a enseignée à ses apôtres, comme c'est fait dans Dignitatis Humanae, pour la soi-disant liberté religieuse, eh bien là, c'est absolument impossible que ce soit un pontife légitime qui ait enseigné cela et qui ait décrété cela officiellement. Donc là, la présomption qu'on pouvait avoir au départ, elle est détruite, une fois qu'on a bien étudié la question. Et à mon avis, la principale raison, elle vient seulement en troisième, et cette raison-là, elle va nous expliquer toute la démarche dans l'étude présente qu'on est en train de commencer à analyser. Puisque les arguments cédévacantistes ne sont pas admis par la grande majorité des catholiques des traditions, alors il faut appliquer le canon 209 dans le doute positif. Eh bien, il y aura quand même une juridiction poursuivie dans l'autorité douteuse. Mais cela, c'est vrai quand on n'a encore que des doutes, qu'on n'a aucune assurance que l'autorité apparente puisse ne pas l'être. Mais une fois qu'on a démontré qu'ils font des choses que l'Église nous enseigne qu'un vrai pontife ne peut pas faire, on ne peut plus s'appuyer sur ce canon parce qu'il n'y a plus de doute. Alors, le principal, c'est psychologiquement, puisque les arguments cédévacantistes ne sont pas admis par la grande majorité des catholiques de tradition, alors on ne va pas conclure ce qu'il faudrait. Et voilà toute la raison de faire, c'est-à-dire... Puisque je sais que si je vais dire toute la vérité, les gens vont pas me suivre, ben je vais l'édulcorer, je vais la présenter de telle manière qu'ils y adhèrent quand même, qu'ils continuent à me suivre. Parce que j'ai pas envie de me retrouver tout seul, j'ai pas envie de faire la traversée du désert. Et donc, ben je suis le pasteur, mais au lieu de montrer le chemin en leur disant « attention, là c'est le précipice ou autre », ben je dirais... Ben, je les suis, attention, il vaut mieux vous écarter un peu du bord, sans dire le pourquoi. Ou, encore pire, comme ils disent maintenant, et ceux qui sont, même les prêtres qui ont été mis dehors ou qui sont sortis d'eux-mêmes, là, anti-accord, ils disent, attention, ce sont des loups rapaces, vous ne devez pas aller avec eux. Sinon, vous allez être entraînés, vous voyez, ils prêchent l'hérésie, ils font des actes apostats, etc. Donc, il faut vraiment vous sortir de leur influence, parce que sinon, vous allez vous perdre. Et après avoir dit ça, ils disent, mais attention, ce sont les autorités légitimes, il faut être en communion avec eux. On arrive à l'aberration. Alors, ce sont des loups, mais c'est quand même les brebis. Ce sont des loups, mais c'est quand même des pasteurs. Alors, moi, je vais dire, ce sont des noirs blancs, ce sont des carrés triangulaires. Voilà, c'est des affirmations aussi absurdes que cela. Donc voilà, psychologiquement... Soi-disant, on veut pratiquer le devoir du combat de la foi. Soi-disant, on veut s'en tenir à la vérité révélée, à la vérité définie par l'Église. Mais comme avec cela, on arrive à des conclusions qui sont trop claires et que les gens, ça les dérange et qu'ils ne veulent pas nous suivre, eh bien, on va biaiser, on va mettre un peu de l'eau dans le vin, etc. On va dire une chose et son contraire pour que les gens continuent à nous suivre et puis en essayant de leur faire éviter un petit peu le précipice. Et en faisant cela, on va défendre la foi et on va garder les fidèles. Mais ce n'est pas vrai du tout. C'est que si vous leur dites « ce sont des loups, mais ce sont les vrais pasteurs », un jour ou l'autre, ils se diront « mais si ce sont les pasteurs qui vous écoutent, m'écoutent, donc je dois les écouter ». Et donc, ils verront un jour ou l'autre la logique. Et pourquoi dans la fraternité, il y a continuellement à chaque fois des coupures, des purges? Ceux qui ont condamné les autres comme des traîtres parce qu'ils ont fait des accords avec les modernistes intrus, Le surlendemain, ils en font autant parce qu'ils sont sur une position entre deux chaises et qu'ils essayent de concilier les inconciliables et qu'ils disent une chose et son contraire.